Chapitre 83. Au large de la plage de la Datcha, le gosier, 21h05. À chaque vague, le Zodiac Milpro bondit d'un mètre. Il paraît ne jamais se poser, sauter de crête en crête, tel un kitesurf lancé plein vent, décollant puis replongeant, défiant l'apesanteur un instant avant de retomber brutalement. Jolene s'accroche. Elle est trempée. Amiel aussi, mais il ne semble pas s'en soucier, et continue de manœuvrer le bateau à moteur, plein gaz, direction l'îlet du gosier. Il pousse l'embarcation à sa limite, avant que le talkie-walkie accroché à sa ceinture ne grésille.
« Tu peux ralentir, ami !»
fait la voix de Chevy Dijou.
« T'es dans la zone !»
Le Zodiac se stabilise. Jolene tente elle aussi de trouver son équilibre, saisit à deux mains le spot halogène fixé à l'avant du bateau et commence à fouiller la nuit. Une poursuite de théâtre cherchant une unique actrice sur une scène infinie. « Là, sur la droite !» Il a repéré une lumière rouge clignotante, semblable à celle dont s'équipent les joggeurs ou les cyclistes qui circulent de nuit. Jolene braque le faisceau lumineux. Une pastille claire se pose sur l'eau noire, flotte comme un reflet de lune apprivoisé avant de s'arrêter. « On la tient !» Dans le halo, les deux capitaines distinguent la perche rouge clignotante, la bouée jaune sur laquelle elle est fixée et la corde qui relie le dispositif de sécurité à la nageuse aveuglée. « Police !» crie Amiel. « Arrêtez-vous !» Il règle le Zodiac sur la vitesse minimale pour s'approcher en provoquant le moins de remous possible. Il ne peut cependant empêcher les vagues de se former. La bouée tangue. La tête de la nageuse disparaît une seconde avant de ressurgir pour cracher de l'eau et des mots salés. « Qu'est-ce que vous fichez là ? Dégagez !» Le spot de Jolene éclaire le visage mouillé de Célanie le crâne, défiguré par la surprise et la colère. « Vous êtes en état d'arrestation !» annonce Amiel. « Nous allons vous lancer une bouée et vous montrer dans l'embarcation. Mais vous délirez ?» L'avocate paraît sincèrement sidérée. Elle écarquille les yeux sans rien distinguer entre la nuit et les 500 watts de l'halogène. « N'aggravez pas votre cas par un délit de fuite. Nous allons nous approcher et vous pourrez monter. Un délit de fuite ?» s'étrangle Célanie. Amiel comprend aussitôt que le terme est mal choisi. Difficile d'imaginer que la meurtrière présumée espère quitter l'île à la nage. Pourtant, outre le Zodiac, un hélicoptère Dragon se tient prêt à décoller et 4 policiers sont postés sur l'îlet du gosier. Le cocu leur a fourni des moyens illimités. Jolene détourne de quelques mètres son projecteur avant d'interpeller à son tour l'avocate. « Arrêtez de jouer! Nous connaissons votre véritable identité! Depuis 4 heures, toute la police de l'île n'a qu'une mission, vous retrouver! Vous espériez quoi? Atteindre la limite des eaux territoriales et nous échapper ?» Ils ne distinguent que la mer autour d'eux, et un peu plus loin les palmiers de l'îlet. Seule la tête de Célanie émerge de l'eau. « Désolé, capitaine, je comprends rien à ce que vous racontez. Je me contente de nager. Un petit kilomètre aller-retour, de la plage de la Datcha à l'îlet du Gosier. Renseignez-vous, c'est le spot le plus fréquenté de l'île. Tous les membres du club Shark Natation des Abîmes vous confirmeront que j'effectue la traversée tous les jeudis. » « De nuit ?» crie Jolene. « Oui, de nuit, capitaine ! Parce que je travaille dans la journée ! Parce que la traversée est plus sûre et agréable quand les bateaux sont à quai ! Parce que j'aime nager au clair de lune et que, surtout, rien ne m'interdit de le faire et rien ne m'oblige à me justifier !»
L'avocate, déterminée, se remet à crawler dans la direction de l'îlet. On distingue son ombre à une centaine de mètres. Amiel s'inquiète. Il n'a pas le choix. Il doit l'arrêter.
« Rendez-vous, Célanie ! « Ne soyez pas ridicule! Ne nous obligez pas à employer la force !»
Elle continue pourtant de nager, relevant seulement la tête pour crier entre deux coulées.
« Et vous comptez faire comment? Me harponner? Je suis à 100 mètres de l'îlot! Vos hommes m'y attendent forcément, si vous n'êtes pas complètement idiot !»
Îlet du Gosier, 21h30. La plage de l'îlet du Gosier s'est transformée en décor de jeux de survie pour chaînes télévisées. À défaut d'électricité, les agents Musard et le Vif ont planté dans le sable, devant le ponton de béton, des torches enflammées. Les moustiques tournent autour, par grappes serrées. Les coqs réveillés sonnent l'alerte en chantant à tue-tête. Leur île est attaquée par un Zodiac échoué et 6 policiers, dont 2, Sigzauer au poing, braquent la nageuse qui vient de poser les pieds sur le sable. Amiel observe l'avocate ruisselante, s'attarde sur son corps menu d'adolescente. Comment imaginer qu'elle puisse être la harponneuse? Jolene s'avance, tend une serviette à Célanie tandis qu'Amiel résume les chefs d'accusation.
le numéro d'illusion dévoilé d'Évariste, l'identité de Marité et Marcel Pigeon, qui correspond à l'anagramme de son propre nom. Tout en séchant ses longs cheveux dans la serviette, c'est la Nil étoise. Ce sont vos preuves? Un tour de magie et un jeu de lettres? Vous avez déclenché le plan épervier contre moi pour ça? Le juge Coury va vous rire au nez et... Amiel s'est avancé. Son ombre démesurée tremble sur la plage au rythme des flammes. Jouons cartes sur table, maître le crâne. Nous avons consulté des illusionnistes professionnels qui nous ont expliqué comment votre grand-père simulait ses visions. Vous avez des preuves? Amiel et Jolène doivent avouer que non. Les hallucinations d'Évariste ont été filmées, ainsi que les scènes de parloir où il ouvre son courrier. Mais même en observant les vidéos au ralenti, il est impossible de distinguer s'il cache ou non une carte pliée au creux de sa main. Il a toujours pris soin de ne pas laisser d'angle compromettant aux caméras, tel un magicien adaptant son tour d'illusion pour la télévision. Célani enroule la serviette autour de sa taille. Elle passe ses doigts dans sa boule hirsute de cheveux crépus. Pas de preuves. Avec mes collègues de GIS TIS 971, nous allons vous traîner dans la boue. Amiel lui lance un sourire désolé. Ça m'étonnerait, Célani. Vos collègues vous ont déjà lâché. Je crois qu'ils n'aiment pas trop la boue. Les éclaboussures, les remous. Tant que vous leur étiez utile, rentable, ils vous adoraient. Mais ils ne sont pas prêts à se salir pour vous. Célani grimace. Ses doigts torturent ses cheveux emmêlés jusqu'à les arracher. Elle est trop intelligente pour ne pas comprendre qu'Amiel dit la vérité. Elle s'assoit dans le sable, déstabilisée. Elle paraît si fragile sans sa carapace, sans son uniforme d'avocate, sans son tailleur cintré et ses dossiers, qu'Amiel n'arrive toujours pas à croire qu'elle puisse être la coupable. Mais les faits. « Ne vous inquiétez pas pour moi, capitaine, » réagit Célani. « Je peux me défendre toute seule. Vos accusations ne tiennent pas la route. Je reçois des clients de 8h du matin à 8h du soir. Je vous fournirai le détail de mon emploi du temps. Agenda et témoignage à l'appui. Vous constaterez qu'il est impossible que je sois votre harponneur. » Jolène a allumé une cigarette. Elle repère le trouble de son adjoint et ne laisse pas l'avocate reprendre l'avantage. « Vous seul aviez accès au courrier envoyé à votre grand-père. » « Oui, » dit Célani. « Mais n'importe qui a pu les poster. Le harponneur savait que je les ouvrirais pas. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient adressés à mon client, pas à moi. À un client qui est votre grand-père. Vous auriez pu être tenté de les ouvrir quand même. Et alors, tout le plan du tueur échouait. Pourquoi aurait-il pris ce risque si vous n'étiez pas complice ? Vous avez raison, » admet l'avocate. « Si je n'ai pas ouvert les lettres du harponneur, c'est parce que mon grand-père m'a interdit de le faire. » La capitaine en crache une bouffée de fumée bouche bée. « Vous n'avez pas trouvé ça louche ?»« Si. Et alors ?»« Et alors ?» s'étouffe Jolène. « Ça signifie que votre grand-père savait qu'il allait recevoir du courrier, que le tueur et lui étaient associés. » Célani ne peut retenir un petit sourire. « Vous en doutiez ?» Jolène paraît désarçonnée par l'aplomb de l'avocate. Amiel prend le relais. Admettons, nous ne disposons pas de preuves formelles pour les enveloppes. Mais vous ne pouvez pas nier le reste. Évariste Pigeon est votre grand-père et le père de Marcel Pigeon mort avec sa femme, Marité, dans l'incendie de l'habitation W. Seule leur fille de 8 ans a survécu. Cette fille, c'est forcément vous. L'avocate éclate de rire. Un rire de soulagement. Impossible qu'elle joue la comédie avec autant de talent. Elle abandonne ses cheveux ébouriffés aux alizés et mime un applaudissement. « Bravo! Vraiment? Moi, la fille de Marcel et Marité? Vous avez le don de toujours foncer tête baissée dans la mauvaise direction !» Amiel et Jolène encaissent cette nouvelle parade. Tous les indices, tous les faits concordent. Comment Célani le crâne peut-elle nier avec autant d'assurance une telle évidence? « J'ai bien connu Marcel et Marité, » continue l'avocate. « Je les appréciais beaucoup. J'ai été très touché par leur drame. » C'est en leur mémoire, pour leur rendre hommage, si j'ai pris le nom de Maître Le Crâne. Vous avouerez que mon véritable nom de famille, Pigeon, n'est pas le patronyme rêvé pour un avocat. Mais je ne suis pas leur fille. Vous vous foutez de nous ? Ose protester Jolène. Célani poursuit sa plaidoirie. Évariste a eu deux fils, Marcel et Charlie. Marcel était mon oncle. Il est mort avec sa femme dans l'incendie de l'habitation W. Mais mon père est bien vivant, il habite à Goyave. Et il prend tous les matins son café sur le port. Terrasse de chez Tico, devant les pélicans, vous n'aurez aucun mal à le vérifier. Merde, jura Miel dans sa tête. Les moustiques continuent de s'agglutiner autour des torches, les coqs de chanter.
Quelques iguanes cachées dans les amandiers se sont approchées. Il y a du monde, des spectateurs bruyants pour assister à l'acquittement. Jolene écrase sa cigarette dans son nez comme égo.
« C'était tout de même vous, tente-t-elle, lors de l'incendie, qui étiez dans la voiture avec votre oncle et votre tante. »
L'avocate dévisage la capitaine avec attention. Elle semble fouiller loin dans sa mémoire et ne rien trouver.
« Pourquoi allez-vous chercher des hypothèses aussi compliquées ?»« Ils étaient avec leur fille, tout simplement. »«
Leur fille ?»«
Ma cousine, la seule rescapée du brasier. Nous avions presque le même âge. Nous étions assez proches jusqu'à l'accident. »
Jolene et Amiel se regardent. Est-il possible que Célanie leur livre la véritable coupable ?«
Votre cousine ?» demande Jolene d'une voix étouffée. « Qu'est-elle devenue ?»«
Elle est partie en métropole, pour être élevée par ses grands-parents maternels. En Provence, je crois. Marité était originaire de là-bas. »«
Vous l'avez revue ?»«
Non. J'avais 10 ans. 7000 kilomètres nous séparaient. » La famille de Marité n'avait jamais vraiment apprécié que leur fille tombe amoureuse d'un Guadeloupéen et parte vivre sous les tropiques. Après la mort de leur fille, ils ont coupé les ponts.
Vous vous souvenez du prénom de votre cousine ?
Évidemment. Elle portait un joli prénom provençal. Un prénom rare pour une métisse.
Origane.
Jolene et Amiel échangent un regard. Sans se parler, ils comprennent qu'ils partagent la même analyse. Célanie Le Cram ne ment pas. Et de toute façon, il sera facile de tout vérifier, son emploi du temps, l'adresse de ses parents. Retour à la case départ. Un meurtrier ou la meurtrière se promène dans la nature sous une fausse identité. Cette Origane, une femme qui aurait aujourd'hui une 30aine d'années. L'avocate se lève, dénoue la serviette de bain et marche en maillot vers la mer. Compte-t-elle vraiment, pense Jolene, prendre ainsi congé et poursuivre tranquillement sa traversée ?
Attendez, maître !
Lance-t-elle avant que l'avocate n'ait atteint les premières vagues.
Les agents Musard et Le Vif vont se faire un plaisir de vous accompagner en bateau et de vous offrir un séjour de quelques jours dans notre hôtel pénitentiaire de Bemao.
Célanie n'a pas le temps de protester. Le téléphone de Jolene sonne, comme pour l'en empêcher. Les coqs de lilas perchés par dizaines au-dessus de leur tête apprécient la sonnerie et l'accompagnent de leurs chants stridents.
Allô, capitaine Dos Santos ? Valentin Le Cocu. C'est quoi ce bordel ? Vous égorgez les poulets ?
Presque. Les coqs de l'îlet du Gosier se lancent dans une technopartie. On est avec Célanie Le Cram. Enfin, Célanie Pigeon. Elle a accepté de coopérer, mais...
Génial !
Coupe le sous-préfet.
Si ça peut calmer la psychose sur l'île, Anso, enfin, ma femme, me menace de prendre l'avion pour Avignon demain matin avec les enfants. Vous me coffrez cette avocate à double tour et vous placez autant d'hommes qu'il le faudra pour la garder. J'en ai assez des gens qui disparaissent dans la nature.
Le regard de la policière se trouble.
Vous voulez parler du commandant Cancel ?
Oui, mais pas que de lui. On a un autre souci. Un autre fantôme qui s'est évaporé. Elle a échappé à la vigilance des gendarmes chargés de la surveiller ce matin. Et depuis, plus de nouvelles.
Qui ? Demande Jolene, même si elle connaît déjà la réponse.
Marie-Douce l'énervée,